toutes les femmes, sans doute, ne naissent pas pour travailler, que les unes poussent comme les fleurs dans les jardins pour sentir bon, tandis que les autres sont le blé de la terre qu'on écrase et qui nourrit. Cependant, Martine ruminait un autre projet qui était de décider le docteur à reprendre sa clientèle. Elle finit par en parler à Clotilde qui tout de suite lui montra les difficultés, l'impossibilité presque matérielle d'une pareille tentative. Justement, elle en avait causé avec Pascal, la veille encore. Lui aussi se préoccupait, songeait au travail comme à l'unique chance de salut. L'idée de rouvrir un cabinet de consultation devait lui venir la première. Mais il était depuis si longtemps le médecin des pauvres. Comment oser se faire payer lorsqu'il y avait tant d'années déjà qu'il ne réclamait plus d'argent? Puis, n'était-ce pas trop tard, à son âge, pour recommencer une carrière? Sans compter les histoires absurdes qui couraient sur lui, toute cette légende de génie à demi fêlé qu'on lui avait faite. Il ne retrouverait pas un client, ce serait une cruauté inutile que de le forcer à un essai, dont il reviendrait sûrement le cœur meurtri et les mains vides. Clotilde, au contraire, s'employait toute pour l'en détourner. Et Martine comprit ses bonnes raisons, s'écria, elle aussi, qu'il fallait l'empêcher de courir le risque d'un si gros chagrin. D'ailleurs, en causant, une idée nouvelle lui était poussée, au souvenir d'un ancien registre découvert par elle dans une armoire, et sur lequel, autrefois, elle avait inscrit les visites du docteur. Beaucoup de gens n'avaient jamais payé, de sorte qu'une liste de ceux-ci occupait deux grandes pages du registre. Pourquoi donc, maintenant qu'on était malheureux, n'aurait-on pas exigé de ces gens les sommes qu'ils devaient ? On pouvait bien agir sans en parler à monsieur, qui avait toujours refusé de s'adresser à la justice. Et cette fois, Clotilde lui donna raison. Ce fut tout un complot. Elle-même releva les créances, prépara les notes que la servante alla porter. Mais nulle part elle ne toucha un sou. On lui répondit de porte en porte qu'on examinerait, qu'on passerait chez le docteur. 10 jours s'écoulèrent, personne ne vint. Il n'y avait plus à la maison que 6 francs, de quoi vivre 2 ou 3 jours encore. Martine, le lendemain, comme elle rentrait les mains vides d'une nouvelle démarche chez un ancien client, prit Clotilde à part pour lui raconter qu'elle venait de causer avec Madame Félicité au coin de la rue de la Banne. Celle-ci, sans doute, la guettait. Elle ne remettait toujours pas les pieds à la souleyade. Même le malheur qui frappait son fils, cette perte brusque d'argent dont parlait toute la ville, ne l'avait pas rapprochée de lui. Mais elle attendait, dans un frémissement passionné. Elle ne gardait son attitude de mère rigoriste, ne pactisant pas avec certaines fautes, que certaine de tenir enfin Pascal à sa merci. Comptant bien qu'il allait être forcé de l'appeler à son aide, un jour ou l'autre. Quand il n'aurait plus un sou, qu'il frapperait à sa porte, elle dicterait ses conditions, le déciderait au mariage avec Clotilde, ou mieux encore, exigerait le départ de celle-ci. Pourtant, les journées passaient, elle ne le voyait pas venir. Et c'était pourquoi elle avait arrêté Martine, prenant une mine apitoyée, demandant des nouvelles, paraissant s'étonner qu'on n'eût point recours à sa bourse, tout en donnant à comprendre que sa dignité l'empêchait de faire le premier pas. « Vous devriez en parler à monsieur et le décider, » conclut la servante. « En effet, pourquoi ne s'adresserait-il pas à sa mère? Ce serait tout naturel. » Clotilde se révolta. « Oh ! Jamais. Je ne me charge pas d'une commission pareille. Maître se fâcherait, et il aurait raison. Je crois bien qu'il se laisserait mourir de faim plutôt que de manger le pain de grand-mère. » Alors, le surlendemain soir, au dîner, comme Martine leur servait un reste de bouillie, elle les prévint. « Je n'ai plus d'argent, monsieur, et demain il n'y aura que des pommes de terre, sans huile ni beurre. Voici 3 semaines que vous buvez de l'eau, maintenant il faudra se passer de viande. » Ils s'égayèrent, ils plaisantèrent encore. « Vous avez du sel, ma brave fille !»«
Oh, ça oui, monsieur, encore un peu. »
« Eh bien, des pommes de terre avec du sel, c'est très bon quand on a faim. » Elle retourna dans sa cuisine, et tout bas, ils reprirent leur moquerie sur son extraordinaire avarice. Jamais elle n'aurait offert de leur avancer 10 francs, elle qui avait son petit trésor caché quelque part, dans un endroit solide que personne ne connaissait. D'ailleurs, ils en riaient, sans lui en vouloir, car elle ne devait pas plus songer à cela qu'à décrocher les étoiles pour les leur servir. La nuit pourtant, dès qu'ils se furent couchés, Pascal sentit Clotilde fiévreuse, tourmentée d'insomnie. C'était d'habitude ainsi, aux bras l'un de l'autre, dans les tièdes ténèbres qu'il la confessait. Et elle osa lui dire son inquiétude pour lui, pour elle, pour la maison entière. Qu'allait-il devenir sans ressources aucunes? Un instant, elle fut sur le point de lui parler de sa mère. Puis, elle n'osa pas. Elle se contenta de lui avouer les démarches qu'elle avait faites, Martine et elle. L'ancien registre retrouvé, les notes relevées et envoyées, l'argent réclamé, partout, inutilement. Dans d'autres circonstances, il aurait eu, à cet aveu, un grand chagrin et une grande colère, blessé de ce qu'on avait agi sans lui, en allant contre l'attitude de toute sa vie professionnelle. Il resta silencieux d'abord, très ému, et cela suffisait à prouver quelle était par moments son angoisse secrète, sous cette insouciance de la misère qu'il montrait. Puis, il pardonna à Clotilde en la serrant éperdument contre sa poitrine. Il finit par dire qu'elle avait bien fait, qu'on ne pouvait pas vivre plus longtemps de la sorte. Ils cessèrent de parler, mais elle le sentait qu'il ne dormait pas, qu'il cherchait comme elle un moyen de trouver l'argent nécessaire aux besoins quotidiens. Telle fut leur première nuit malheureuse, une nuit de souffrance commune, où elle se désespérait du tourment qu'il se faisait, où lui ne pouvait tolérer l'idée